Manifeste-nous cette volonté, montre-la nous et donne-nous un cœur obéissant de manière à ce que nous puissions l'accomplir. Te demandons pardon pour nos péchés, fais-nous grâce. Merci pour la consolation que tu nous apportes car nous l'avons chanté, tu nous as consolés. Sois béni, sois loué. Bénis tes enfants ce soir. Selon ta promesse, sois au milieu de nous. Conduis toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse richement. Nous lirons ce soir dans 1 Chronique 17. Nous l'avons lu mercredi, un peu plus haut. Verset 1er. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » Verset 7. C'est l'Éternel qui parle. Parle à Nathan. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef de mon peuple d'Israël. J'étais avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël, que tu conduis. Et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité. Pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. J'ai humilié tous tes ennemis. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi que nous l'avons vu, David a été richement béni. Plus d'ennemis, plus rien qui ne le trouble. Dieu l'a installé, il est en paix. Amen. C'est un des fruits de l'esprit, ça. enfin, une des qualités du fruit de l'esprit, la paix. David est dans la paix, est très bien installé, établi dans sa maison. Il y est. Donc, tout ce qu'il a à faire, ce serait peut-être d'attendre l'enlèvement. Eh bien non. Il est bien établi, il a tout ce qu'il lui faut, il a un peuple pas très agité, c'est un règne calme, tout est beau, tout est bien. Que fait David? Il s'assied, il tourne les pouces? Non. David a un souci. Moi, je suis bien. Et l'arche de mon Dieu, moi, je suis stable, mais l'arche ne l'est pas. Je suis à l'abri des intempéries, mais l'arche n'y est pas. Ça, c'est dans le naturel. Et David a le souci de bâtir une maison à Dieu. Parce que Dieu avait déjà dit depuis l'Exode, depuis le temps de Moïse, dans Exode 25, Dieu avait ce sentiment de vouloir habiter au milieu de son peuple. Exode 25. Vient de chanter, rien je ne veux, je n'aime que ta volonté, n'est-ce pas? Et la volonté de Dieu, au verset 8, c'est quoi? Les enfants d'Israël me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu a ce souci, il avait cette envie, ce désir d'habiter au milieu de son peuple. Pendant que le peuple a longtemps demandé à Dieu, a longtemps présenté à Dieu ses problèmes, ses soucis, afin que Dieu l'établisse. Dieu l'a établi, Dieu a établi David. Maintenant, David dit, maintenant que Dieu m'a établi, est-ce que Dieu est satisfait? Mais il voit que l'arche continue à circuler de tente en tente. Il faut, si moi je suis stable, il faut aussi que l'arche de Dieu soit stable. C'était ça son souci. Dans Acte 7, verset 44, Étienne dit, « Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. » Donc Dieu avait ordonné déjà, depuis le temps de Moïse, qu'on lui fasse ce tabernacle où il pouvait y rester. Ça a toujours été le souci de Dieu. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. C'était le cas dans l'Ancien Testament, c'est aussi le cas dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens. D'abord 1 Corinthiens 6. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Après que Dieu vous ait délivré de beaucoup de maladies, de beaucoup d'indispositions, de beaucoup de soucis de santé, Après que Dieu vous ait établi, non seulement pour vous-même, pour ceux pour lesquels vous avez prié, maintenant, l'apôtre vous dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il le répète dans 2 Corinthiens 6, pour que nous puissions bien comprendre. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Dites amen à ça. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quand Jean-Baptiste était dans le désert, on lui a dit de présenter l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On lui a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et y rester, c'est lui. Ça va? Et Jean-Baptiste, chaque fois qu'il baptisait, il regardait, peut-être qu'il voyait l'Esprit descendre, mais l'Esprit ne restait pas et il s'en allait. Jusqu'à ce que l'Esprit descende et trouve un endroit où il a du repos. C'est-à-dire une nature comme celle de l'agneau. Ça va? L'Esprit est descendu comme une colombe et est descendu sur le Seigneur, qui était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'Esprit est resté. En ce qui nous concerne, nous, si on regarde dans l'Ancien Testament, Samson, Saül, souvent il arrive, et même David, parce que dans Matthieu 23, je crois, dit que David, animé par l'Esprit, prononçait des psaumes, il prophétisait. Et David, sans l'Esprit, posait des problèmes. Quand David se promène sur le balcon, l'Esprit n'y est pas. Si l'Esprit était en David en permanence, en allant sur le balcon, il ne se serait rien passé. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, David était sous une autre onction. Ça va? Quand on est sous une autre onction, il est sûr que l'esprit s'en va. Saül, ça lui est arrivé après avoir désobéi, que l'esprit se soit retiré. Samson, après avoir livré le secret, l'esprit s'est retiré. Tant que il avait ce secret-là, cette force, l'esprit étant toujours sur lui, Dieu était toujours en lui. Ce qui fait que Samson, Dieu trouvait en Samson un endroit stable jusqu'à ce que Samson soit séduit par le monde. Et là, l'esprit s'en va. Si on doit mettre cela dans notre situation actuellement, donc l'esprit va venir en moi, je fais une bêtise, l'esprit s'en va. L'esprit n'est pas stable. Il faut que dans l'Église, l'esprit soit stable. C'est-à-dire que ça doit être notre souci. Quand Dieu nous a établis, nous a fixés, nous devons aussi avoir ce souci que Dieu se fixe. Agé, chapitre 1er. Il réprimande le peuple. Dieu les a bénis. Ils avaient du travail. Ils avaient prié pour qu'ils aient du travail, ils en ont eu. Ils avaient prié pour que Dieu leur donne la paix, ils ont eu la paix. Ils ont eu tout ce qu'ils avaient demandé. Ils ont eu des maisons. Ça va? Mais pendant qu'ils avaient des maisons, nous savons que quand Salomon, le titre c'est, ce sera lui, donc un des fils de David qui me bâtira une maison. Quand Salomon a bâti la maison, la gloire de Dieu, Dieu est venu s'installer dans cette maison. Et il y est resté. Jusqu'à ce qu'il y ait le péché, la maison a été détruite. Maintenant, lorsque cette maison a été détruite, Israël a eu des problèmes. Ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel les a entendus. Et l'Éternel les a ramenés, il les a rétablis. Et ils ont eu leur maison. Dans Agée chapitre 1, nous voyons, en fait, quand Dieu les a rétablis, ils n'ont plus pensé à Dieu. Ils n'ont pas regardé cette maison de l'Éternel qui était détruite. Verset 3, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées ? Donc, ils ont mis des lambris, du bois pour décorer. Ça va ? Quand cette maison, la maison de Dieu, elle est détruite. Donc, ils sont restés là peinards pendant que la maison, Dieu leur a tout donné. Mais pendant ce temps-là, la maison de Dieu était détruite. Mais ils sont restés peinards. Hey, faites quelque chose. Dieu dit qu'il veut habiter au milieu de vous. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Donc, pour que vous puissiez tenir compte du fait que Dieu est sa maison où habiter, n'allez pas chercher un maçon. Dieu vous demande de considérer vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Tous ces problèmes que vous avez, c'est parce que Dieu n'est pas là. Je crois que c'est Gédéon qui a posé la question, si l'Éternel était avec nous, où sont ces miracles ? Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Vous êtes tout le temps dans les problèmes. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Tant que vous savez que vous êtes le temple du Saint-Esprit, considérez attentivement vos voies. Si vous considérez attentivement vos voies, ce qui a été dit à Josué autrefois devient valable pour vous également. Vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez. Amen. Maintenant, ça c'est dans le naturel. On en a déjà parlé. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Maintenant, transposons cela dans l'antitype, dans le spirituel, c'est-à-dire dans notre cas aujourd'hui. Quand Dieu dit à Nathan, va dire à David, lui ne me bâtira pas une maison, c'est un homme de guerre, de sang et tout ça, ce sera un de ses fils qui me bâtira une maison. En réalité, il ne parlait pas de Salomon. Dieu ne parlait pas de Salomon. Dieu parlait de Jésus-Christ. C'est lui, le fils de David, qui devait construire une maison à Dieu. Parce que lui, son règne n'aura pas de fin. Salomon, son règne a eu une fin. Nous savons comment il est mort. Et Paul dit à Timothée ceci. 1 Timothée 3. Verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, là où Dieu doit habiter. C'est quoi la maison de Dieu? C'est l'église du Dieu vivant. Dites amen à ça. La colonne et l'appui de la vérité. Et justement, Jésus-Christ dit à Pierre, n'est-ce pas? Il dit que c'est lui qui bâtira l'église. C'est lui le bâtisseur. Matthieu chapitre 16. Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matériau, un des matériaux que Dieu utilise pour bâtir son église, le matériau principal, c'est la révélation de qui est Jésus-Christ. Et quand Salomon a construit le temple en son temps, tous les matériaux nécessaires, vous pouvez lire cela dans 1 Roi 5, tous les matériaux nécessaires dont il avait besoin. Il n'a pas construit avec n'importe quel bois. Le bois représente l'homme également. Les pierres aussi. Il y a le bois sec et le bois vert. Vous connaissez cela. Ça va? Il y a les pierres. Nous allons y arriver. Ils représentent aussi l'homme, les hommes. Et le bois dont il avait besoin, ne se trouvait pas à portée de la main en Palestine. Il fallait aller chercher au loin. Surtout le cèdre du Liban. Il y avait du cyprès aussi. Et il est allé chercher ces matériaux assez loin. On devait se rendre dans d'autres parties du monde pour trouver ces matériaux-là. Et pour construire l'église du Dieu vivant, c'est la même chose. Le bois dont on a besoin, le temple qu'il faut construire, vous êtes le temple. Le temple pour lequel il faut construire ne se trouve pas nécessairement qu'à Jérusalem. Ça ne se trouve pas nécessairement qu'en Palestine. L'apôtre, qui ça? Jésus-Christ dit à ses disciples dans Marc 16, dit au verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde, amen, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Tous ces matériaux pour bâtir la maison du Dieu vivant se trouvent au travers du monde entier, dont vous faites partie. Et la bonne nouvelle doit être apportée afin que les matériaux qui sont là-bas soient un jour acheminés là où les aigles doivent s'assembler. Comme dit Paul dans Éphésiens, on a un édifice bien coordonné. C'est quelque chose de mystique, de spirituel. Ce n'est pas fixé dans un lieu géographique, mais c'est situé spirituellement au travers du monde entier. L'église du Dieu vivant, ce n'est pas seulement la rue de Firlan numéro 94, mais elle est éparpillée partout dans le monde. Là où ça? Eh bien, partout, d'abord auprès de vous, n'est-ce pas? Acte 2, 38, 39. Saint-Esprit, verset 39, car la promesse est pour vous, d'abord pour vous, que la promesse que Dieu vienne habiter en vous, que le Saint-Esprit vienne trouver en vous sa demeure. La promesse est pour vous ici à la rue de Firlan. C'est pas tout. La promesse est pour vos enfants. Dites amen à ça. La promesse est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est pourquoi ça doit être notre souci que la parole de Dieu soit apportée, de telle manière que Dieu y trouve son compte au travers de toute la création. Nous avons tous cette responsabilité. Ce n'est pas seulement la responsabilité du prédicateur, c'est la responsabilité de tous ceux que Dieu appelle, que Dieu appellera, de telle manière que le Saint-Esprit soit apporté, soit donné, répandu sur toute chair. Lorsqu'il est répandu sur toute chair, ça formera pas plusieurs églises, mais une seule église. Un édifice bien coordonné, dit l'apôtre. Et quand ce sont des pierres, Dieu est capable d'en faire des temples. Quand savons que le temple, la maison, le temple a été construit à part des matériaux. Il y a du bois, il y a de l'or. L'or nous parle de la divinité. Il y a de l'argent qui nous parle du rachat. Vous avez été racheté à grand prix, n'est-ce pas? C'est ce que dit l'apôtre. Donc, Dieu ne tire pas seulement des Juifs les matériaux, mais Dieu tire les matériaux du monde entier. Et nous sommes tous concernés. Et nous sommes tous des pierres vivantes, des pierres qui doivent être, comment dire, rassemblées en un temple, en une maison spirituelle qui consiste à être la maison du Dieu vivant. Pour cela, nous avons besoin, n'est-ce pas? On ne va pas prendre un arbre, un cyprès par exemple, et l'apporter tel quel, mais le cyprès va être travaillé. Il va être taillé. Vous savez, on a utilisé peut-être du bois pour faire cette porte, mais la porte n'est pas dans la forme du bois qui était dans la forêt. La porte a été travaillée. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Donc, lorsque vous devez être taillé, le Saint-Esprit s'en occupe. Quand Jésus-Christ dit, et Jésus-Christ est la parole vient, elle écorche, la parole vient, elle nous taille, la parole fait, elle vient, elle nous forme. La parole a cette puissance, une puissance création, une puissance de transformation. Et cette parole, elle est nécessaire. Et dans chaque âge est constituée d'un certain climat. Même dans les sciences, lorsqu'on regarde, lorsqu'ils font leur répartition dans l'histoire, histoire de la Terre, n'est-ce pas? Ils peuvent vous donner donné des périodes glaciaires, des périodes non glaciaires. Il y a des climats. Ce qui se passe ici avec le réchauffement climatique, en fait, c'est un cycle normal. Bien que c'est accéléré par les choses du monde, le modernisme, mais c'est un cycle normal. La Terre a connu des changements de climat. Et chaque climat, si je dois dire ainsi, si je dois parler en termes de climat, chaque climat a trouvé une réponse à pouvoir faire de sorte que la Terre continue à vivre. C'est-à-dire que chaque âge reçoit la parole qui consiste à combattre les problèmes de son âge. Le message que vous avez reçu, c'est un message qui vous aide, à vaincre les problèmes climatiques de votre temps. Ce sont eux qui se plaignent sur le réchauffement climatique. Vous n'avez pas à vous plaindre de ça. Vous savez que Dieu est celui qui détermine les temps et les circonstances. Et la parole de l'âge, le message reçu, eh bien, son rôle, c'est justement celui-là, c'est de nous faire de sorte que nous puissions tenir aux intempéries provoquées, aux catastrophes naturelles provoquées par cet âge mauvais. Cet âge mauvais qui fait que, vous voyez, les catastrophes, spirituellement, c'est le cas. Il y a des catastrophes spirituellement parlant. Ce que les hommes font aujourd'hui, c'était impensable il y a encore quelques années. Le péché tel qu'il subsiste aujourd'hui, c'est impensable il y a encore quelques années. Et ça ne peut pas toucher l'Église. Parce que Jésus a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église qu'il est en train de bâtir. Ce n'est pas une question d'exagération, c'est une question de vie. Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, dit ceci. Verset 4, approchez-vous de lui, lui-même une pierre vivante, rejetée par les hommes. Rejetée pourquoi? Elle a paru tellement ordinaire, cette pierre. Elle a paru tellement simple, cette pierre, que les hommes l'ont négligée. Ils ont voulu faire des églises à leur manière. Et Abraham dit, quand ils sont arrivés maintenant à la fin, pour poser la pierre de fête, ils ont vu qu'il y a une pierre qui manquait. Où est-elle cette pierre? Avons-nous perdu de la cargaison pendant que tout était acheminé vers le lieu où ça devait être, ça devait être monté? Avons-nous oublié de commander? Mais en fait, la pierre, elle était là, mais ils l'ont rejetée parce qu'elle paraissait ordinaire. Et pourtant, c'était la principale de l'angle. Ce message peut paraître ordinaire, mais pourtant, c'est ce qui coiffe. L'âge de Laodicée, c'est le dernier âge. Aujourd'hui, les gens peuvent se moquer. Mais nous savons que sans cela, comme disait le frère dimanche, il disait, si vous n'avez pas encore trouvé le prophète qui vous montre qui est Jésus-Christ, ben, cherchez-le, trouvez-le. Parce que sans lui, sans la parole de votre âge, Christ, c'est le oint. Donc le oint de votre âge. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes nulle part. Vous voyez, tout à l'heure, quelqu'un m'a appelé, m'a demandé des nouvelles du Congo, si j'avais. Moi, je lui ai dit, tu sais, je suis d'une famille profondément catholique. Et il y a des choses qui sont difficiles à enlever. Je ne veux pas venir, dans des temps critiques comme ça, dire, voilà, arrêtez tout ça, c'est faux. Il faut y aller doucement. Il faut prier pour eux. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont construit des choses en bas. Maintenant, quand on arrive en haut, ça n'y est pas. Il y a quelque chose qui manque et que vous, vous avez la grâce d'avoir ce soir. Et si vous avez la grâce de l'avoir ce soir, c'est que la maison qui est bâtie va aller dans son acheminement, jusqu'à son achèvement. Et donc, rejeté par les hommes, mais choisi, ça veut dire élu. Choisi et précieuse devant Dieu. Et vous-même, donc vous et moi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituel. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Vous êtes des pierres vivantes qui n'ont pas été prises sur place. On vient de différents horizons. Mais nous devons chaque fois nous souvenir que là où nous étions à l'état natif, Dieu a dû nous changer. Au stade où nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes plus ce que nous étions hier. Et tant que le travail n'est pas achevé, je ne suis pas encore ce que je devrais être demain. La pierre qu'on va placer à un certain endroit n'est pas nécessairement la même que celle qui était placée à la base. Dieu sait que chacun a sa place. Et chacun est taillé selon la place où Dieu l'a placé. Dans Ésaïe 51, le prophète nous dit ceci. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Vous savez que pour faire partie de l'assemblée d'Israël en leur temps, il fallait être circoncis. Le surplus de chair devait être enlevé. Dieu n'a pas changé. Jusqu'aujourd'hui, pour faire partie du peuple de Dieu, la circoncision est nécessaire. Non pas une circoncision faite de main d'homme, mais une circoncision faite par l'Esprit Saint. Romains chapitre 2. Verset 28, il dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Ce n'est pas celui qui entre aux 94 rues de Firlan. Ce n'est pas ça le chrétien. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Tout ce qui est au-dedans de vous. Que la parole que l'Esprit doit enlever en vivifiant la parole que vous avez reçue. C'est pourquoi le péché doit être condamné. toujours. On ne peut pas caresser le péché. Le péché doit être condamné. Et si l'Esprit Saint descend au milieu de nous, eh bien, l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever ce surplus de chair qui est en nous. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Tout à l'heure, le frère nous a demandé de chanter comme des gens allant au combat. Mais si l'Esprit Saint ne vient pas nous aider, nous sommes vendredi, nous sommes à la fin de la semaine, beaucoup sont à la fin d'une semaine éprouvante de travail, la chair, elle est fatiguée. Si vous faites confiance à la chair, le frère aura beau vous le dire, ça ne marchera pas. Mais quand il le dit, c'est pour éveiller en vous ce désir. Une fois que l'Esprit Saint voit ce désir, aussi fatigué que vous pouviez être, le Saint-Esprit va venir, va vous fortifier et vous chanterez comme de vrais combattants. Et vous louerez Dieu comme de vrais combattants. Mais sinon, vous allez vous laisser aller. Je suis vraiment crevé, je suis vraiment fatigué, j'ai eu beaucoup de travail aujourd'hui. Ça, c'est sûr que Satan vous donnera beaucoup de travail le vendredi. C'est une certitude. Ce matin, je suis allé chez l'ophtalmo, je suis rentré, je n'ai pas eu le temps de dormir comme je voulais, je n'ai pas eu le temps de bien me reposer comme je voulais, j'étais fatigué tout le temps. Mais à un moment donné, j'ai compris, mais j'ai juste dit, finalement, je n'irai plus jamais chez le médecin avant de prêcher. Ça veut dire que je prendrai un rendez-vous un autre jour que le mercredi ou le vendredi. Oui, parce que bon, vous devez vous lever tôt le matin, vous devez y aller, vous attendre, revenir, faire les courses que vous avez à faire. Tout ça, ça va vous fatiguer. Et quand vous allez venir, vous allez chanter, ce sera comme au cimetière. Hein, vous voyez des combattants debout, cette cohorte, hein, mais en dormant, non. On ne va pas se battre encore en dormant. On est vivant. Dites amen à ça. Et la fatigue, c'est quelque chose de très fréquent ici en Europe. En Afrique, vous voyez, j'ai vu ma fille venir là, je sais qu'elle vient des cours, j'étais content. En Afrique, vous les voyez venir en uniforme, s'il vous plaît. Ils n'ont pas eu le temps de rentrer à la maison. Sont allés au culte. Et pas seulement le vendredi, parce que samedi, il n'y a rien, non. Ils sont allés au culte. Il y avait école, ça peut être, mais ils ont culte mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, là où j'allais. Mais cette fois-ci, je n'ai pas été dans une seule assemblée. Ouais. Mais vous le voyez venir en uniforme et ça se termine assez tard. Nous, on est content d'avoir un frère Nestor ici qui vous prêche en 15 minutes et puis l'affaire est terminée. Mais là-bas, c'est un marathon, hein? C'est un marathon. Vous voyez les gens bouger sur leur chaise, se tourner, s'arranger, se réarranger. Ils sont fatigués, mais les frères, ils ne voient pas ça. Mais le lendemain, ils reviennent. Ça interpelle. Et non seulement ça, ils ont peut-être 5, 10 kilomètres à faire encore à pied par après. Oui. Donc, le frère Abraham dit, le sacrifice que vous faites, c'est plus grand est le sacrifice, plus vous recevez de plus vous allez recevoir du Dieu vivant. Et plus Dieu est content d'habiter, de demeurer en vous. Dieu aime habiter au milieu de gens zélés. Le psalmiste dit, il siège au milieu des louanges d'Israël. Et quand il s'agit de louanges, c'est réellement la louange. Et pas juste un chant fait juste pour le plaisir de la couronne de chanter. Non, c'est vraiment louer son Dieu. Et là, Dieu sent qu'il est chez lui. La maison de Dieu, c'est David qui dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Ce n'est pas quelque chose de mort, de silencieux, c'est quelque chose de vivant. Nous sommes des pierres vivantes. Amen. Et c'est cette maison-là que Jésus-Christ est en train de bâtir aujourd'hui, avec des gens zélés, avec des gens concernés, avec des gens qui sont soucieux. D'abord, un, ils ont compté les bienfaits de Dieu. Deux, maintenant, ils voient que Dieu leur a fait beaucoup de bienfaits. Ils veulent aussi maintenant que Dieu soit content. Comme David a vu qu'il était bien installé, maintenant, il voulait aussi que Dieu soit content. Ce n'est pas pour rien que quand on a porté l'arche pour l'amener à son endroit de repos, ce n'est pas pour rien que David a dansé. Il a dansé de toutes ses forces. Pourquoi ? Abraham dit, David a dansé parce qu'il a vu l'arche aller à son endroit de repos. Si maintenant l'arche pouvait seulement venir à son endroit de repos, vous danseriez ici. Dieu vous bénisse. Et c'est cette église-là que Dieu est en train de bâtir. N'ayez pas honte. Prions. Dieu ne veut pas d'une église bâtie par un homme. Il veut d'une église bâtie par son Fils bien-aimé, par Jésus-Christ, le Fils de David, bien sûr. Lui construira une véritable maison à Dieu. Et quand cette maison est achevée, hein, ça j'ai oublié de vous le dire, hein, dans Hébreux 12, c'est dit, quand elle est achevée, vous savez quoi ? L'église achevée, vous savez comment l'apôtre la voit ? Il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vous êtes approchés des myriades que forment le cœur, la chorale, le cœur des anges. Vous chantez avec les anges. Prions le Seigneur. Père Céleste, c'est vrai, nous sommes bien installés. C'est vrai, nous n'avons pas à nous plaindre. Tu nous as bénis de toutes sortes de manières. Comme disait Paul aux Éphésiens, tu nous as bénis de toute bénédiction spirituelle. Tu nous as installés dans les lieux célestes. Nous pouvons te louer. Maintenant que nous sommes installés, qu'en est-il de toi, de ta demeure ? Parce que tu nous as fait la promesse, tu as dit que tu demeurerais en nous, que tu serais en nous. Puisses-tu y trouver ton compte, Seigneur. Mais pour cela, nous avons besoin de toi, afin que tout ce qui doit être enlevé soit enlevé, tout ce qui doit être ajouté soit ajouté. Ta parole en a les moyens. Ta parole en a la puissance. Oh, que cette parole créatrice, oh, puisse descendre dans nos cœurs et accomplir ce don pourquoi tu l'as prononcé. Afin que tu te sentes à l'aise, afin que tu y sois confortable, Père Céleste, dans nos cœurs. Loin de mauvaises pensées, aide-nous à vaincre ces choses. Aide-nous à vaincre, oh, toutes ces choses qui font la guerre à l'âme. Donne-nous cette victoire, Père. Que ta maison, que nous puissions avoir le souci de ta maison. Le souci, après que nous soyons installés, après que nous ayons nos maisons bien lambrissées, maintenant que toi tu puisses y trouver ton compte, que tu puisses trouver ta maison. Si elle a été détruite, tu as les capacités, tu as les moyens de la reconstruire. Tu l'as prouvé tout au long des siècles, ça a été reconstruit, même que tu as promis que tu reconstruirais ce temple qui a été détruit. Parce que tu es Dieu. Rien n'était impossible. Quel que soit le point où nous sommes arrivés, tu es capable de faire un endroit habitable pour toi, un endroit, un sanctuaire pour toi. Selon ce que tu as dit, j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire. Merci pour cela. Merci pour cette merveilleuse promesse. Maintenant, nous te remettons notre chemin du retour entre tes mains. Te demandons de nous assister. Et tous ceux que tu appelleras, tu les appelles par nous, peut-être il y a encore de ces briques qui manquent à l'édifice. Et elles ont besoin d'être amenées au travers de nos vies, au travers de notre marche, au travers de nos témoignages. Témoignages que nous apportons dans le monde. Parce que tu as dit, allez de par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle, pas seulement avec la bouche, mais avec nos vies. Jusqu'à l'achèvement de ce que tu construis. Merci pour ce jour, merci pour nous avoir réunis encore ce soir. Maintenant, si tu tardes à venir, nous nous attendons à dimanche. Nous nous attendons aussi à nos moments de méditation, à nos moments où nous sommes avec toi, lorsque nous entrons dans ce lieu secret. Nous pouvons rester avec toi et nous te remercions pour tous tes bienfaits, pour les prières que nous t'avons adressées en faveur des nôtres, en faveur de nous-mêmes, auxquelles tu as répondu favorablement. Sois-en béni. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié, nous te remercions. Amen. Dieu vous bénisse.